Et avant de lire notre passage, je vais prier. Prions. En effet, notre bon Père Céleste, fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers. Père, nous avons besoin de ton aide ce matin. Illumine les yeux de nos cœurs par ton esprit pour que nous puissions voir les merveilles dans ta parole. Puisse ton esprit nous enseigner ce matin. Puisse ton esprit nous aider à voir la grandeur, la splendeur de Jésus-Christ. Et par ton esprit, Père, nous voulons te demander, aide-nous à saisir Christ, la grâce qui est en lui. Père, nous avons besoin de ton aide. Tu vois que nos cœurs sont souvent lents à comprendre, obtus même, prompts à faire le mal, à croire les mensonges. Et Père, nous sommes devant toi, nous avons besoin de ton aide, ton œuvre en nous ce matin, par ton esprit, au moyen de cette parole. Et nous te demandons tout ça au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc, Romains chapitre 1, et on va lire à partir du verset 8. Tout d'abord, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur, en annonçant l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, chez vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile, à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Et nous allons arrêter notre lecture là. Cette semaine, nous avons tous vu des images de la puissance de l'ouragan Irma, qui a, comme on a dit ce matin, qui a dévasté les Antilles. Et la puissance de ce vent est incroyable. Et il a dû être effroyable d'y être exposé. Ça a dû être effroyable même de l'entendre caché quelque part, dans le noir. Quelqu'un parlait d'une puissance quasi nucléaire. En tout cas, une puissance dévastatrice. Alors, ce passage nous parle d'une puissance encore plus grande, mais une puissance qui n'est pas dévastatrice, destructrice, mais salvatrice. Une puissance qui restaure, qui fait du bien, qui sauve, qui nous met à l'abri. Et dans les semaines qui viennent, à partir des passages suivants, on va voir la raison pour laquelle il nous faut absolument cette puissance-là. Alors l'Évangile n'a pas toujours l'air puissant, et ceux qui suivent Jésus n'ont pas toujours l'air très puissant ou très influent. En fait, on est le plus souvent très conscient de notre faiblesse. Peut-être notre faiblesse personnelle face au doute, face à notre péché, face à la souffrance, face à la mal, face à la mort. Ou peut-être notre faiblesse dans la société, notre manque d'influence, ou le manque de respect, ou la mise à l'écart de ceux qui s'attachent à Jésus. Ou peut-être on est conscient de notre faiblesse ecclésiale, si je puis dire, parce qu'on est parfois perçu comme manquant de racines historiques. En tout cas, on n'a pas de beaux bâtiments historiques. On est très souvent conscient de notre faiblesse. Mais ce matin, l'apôtre Paul, et bien sûr le Saint-Esprit qui a inspiré ce que l'apôtre Paul et ce qu'il a dit ici, ce passage veut fortifier notre foi, affermir notre foi. Et l'apôtre Paul veut que nous ouvrions nos oreilles et nos cœurs pour entendre ce message d'une puissance extraordinaire. On va voir quatre choses dans ce passage ce matin. L'apôtre Paul veut d'abord que nous comprenions qu'il nous faut mieux comprendre l'Évangile. Pourquoi ? Deuxième point, parce qu'il sauve puissamment. Troisième point, comment en vertu de Christ seul. Et ça, quatrième point, au moyen de la foi seul. Donc quatre points, il nous faut mieux comprendre l'Évangile, car il sauve puissamment, en vertu de Christ seul, au moyen de la foi seul. Donc d'abord, il nous faut mieux comprendre l'Évangile. Et dans les huit premiers versets de notre passage de ce matin, l'apôtre Paul communique d'une manière forte, d'une manière personnelle, d'une manière chaleureuse, à quel point il a à cœur de rendre visite à ces chrétiens qui habitent à Rome. Il leur dit qu'il prie incessamment pour eux, tout le temps pour eux, avec reconnaissance, parce qu'il sait qu'ils ont une foi authentique et vivante. Il leur explique qu'il aurait voulu venir plus tôt, mais pour une raison ou pour une autre, il y a eu des empêchements. Mais il prie sincèrement Dieu, qui est souverain, maître même sur ses empêchements, si ça lui plaît, de lui donner l'occasion, de lui permettre d'y aller. Il veut y aller. Paul sait qu'il est l'apôtre, l'ambassadeur de Jésus auprès des non-juifs. Et c'est pour ça qu'il veut absolument exercer son ministère à Rome. Rome qui est la capitale de l'Empire romain, cet empire non-juif, païen. L'empire le plus puissant de l'époque. Ce désir est quasiment plus fort que lui. Au verset 14, Paul dit « Je me dois à tous, je suis sous l'obligation de prêcher l'Évangile. » Alors qu'est-ce que Paul veut accomplir en se rendant chez les chrétiens de Rome? Quel est son but? Au verset 11, on voit qu'il veut les affermir. Il veut communiquer un don ou une grâce spirituelle. Il veut fortifier leur foi. Verset 12, il veut les encourager et être encouragé lui-même par leur foi commune. Et comment est-ce qu'il veut faire ça? De quelle manière est-ce que Paul veut affermir leur foi? Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Littéralement, Paul veut évangéliser les chrétiens à Rome. Il veut les réévangéliser en quelque sorte. Il veut leur parler de l'Évangile, leur reparler sans cesse de cette bonne nouvelle qui concerne le Fils. Alors, on a déjà dit la semaine dernière, c'était la rentrée scolaire et les enfants ont dû reprendre leurs cours, les mathématiques, la biologie, la langue et la littérature française, l'anglais, l'allemand, et ainsi de suite. Combien même, nous les adultes, on aimerait certaines de ces matières. On a entendu la semaine dernière que Keith aime les maths, par exemple, chose qui est incompréhensible pour moi. Combien même on aimerait ce genre de matières. J'imagine que la plupart d'entre nous n'ont pas tellement envie de reprendre des cours de maths, de biologie, physique. C'est sûr que je pense que j'ai un peu besoin. J'ai sans doute oublié pas mal de choses. Ça m'aiderait peut-être bien de reprendre quelques cours. Mais en même temps, je me dis, je peux m'en passer. Je peux m'en passer. Mais l'apôtre Paul, ici, nous rappelle, me rappelle, que j'ai vraiment, vraiment besoin d'être fortifié dans ma foi en réécoutant l'Évangile. J'ai besoin d'être réévangélisé. Je suis de nature oublieuse. Pire, ma tendance naturelle, c'est de chercher mon salut dans ma performance, dans mes efforts, ou c'est dans une réécriture de la Bible au sujet de Dieu pour dire que oh, Dieu n'est pas aussi saint que ça, il m'accepterait quand même. Ce genre de choses, ce genre de pensées sont beaucoup plus ancrées en moi que je ne le pense. Et en un instant, en un clin d'œil, en un tour de main, ma conscience peut tout mettre à l'envers et me ramener à une manière de penser qui met Christ de côté, qui détrône Christ et qui me remet au centre. Et donc Paul, je le sais, il a raison. j'ai besoin d'être réévangélisé. J'ai besoin qu'on me redise la vieille histoire de Jésus et son amour. Et je sais que c'est vrai pour moi. Sans doute, c'est vrai pour d'autres aussi. Je pense que c'est certainement vrai pour nos églises, de manière générale, parce que c'est fou comment un mouvement d'église, comment un mouvement missionnaire peut rapidement éclipser l'évangile, diminuer la grandeur de Jésus, perdre ce message libérateur qui rend humble le pécheur et qui glorifie Dieu. Il y a 500 ans, il nous fallait le mouvement de la réforme. Dieu, par son esprit, a ramené certains à une foi biblique par le moyen de l'étude de sa parole. Et une génération tout entière a réécouté ce que Dieu avait dit dans sa parole. Une génération a fait une révolution pour revenir aux Écritures, pour être à nouveau évangélisé. Et je suis persuadé que nos églises évangéliques, ont cruellement besoin de revenir à l'Évangile, à la Seigneurie de Jésus, au Fils, parce que dans un instant, facilement, on peut éclipser cet Évangile. Cet Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de chacun qui croit, tout homme qui croit, en vertu de Christ seul, au seul moyen de la foi. En tout cas, on voit ici que Paul veut aller à Rome, parce que ces chrétiens qui avaient quand même une foi tout à fait authentique, une foi tout à fait remarquable, bah, ils avaient besoin d'être réévangélisés, comme nous, je pense. Est-ce que vous avez bien conscience de votre besoin, sans cesse, de réentendre cette bonne nouvelle qui concerne Jésus? Ensuite, on voit que Paul n'a pas honte de cet évangile, car il sauve puissamment. C'est notre deuxième point, et nous sommes déjà au verset 16. Un vendeur d'un produit ou d'un service qui n'est pas persuadé que son produit ou son service est valable, utile ou profitable pour celui qui l'achète, aura un peu honte de son produit, de son service. Si son produit marche que 7 fois sur 10, je pense que le vendeur aura un peu de mal à le vendre avec fierté. Il sera obligé de mentir. Alors l'apôtre Paul n'est pas un vendeur, un marchand de produits ou de services, loin de là. Comme on a vu la semaine dernière, il se considère comme l'esclave de Jésus-Christ, sous l'obligation de prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus. Il n'a pas honte de ce message gratuit qui vient de Dieu, qui appartient à Dieu. Parce que justement, il est convaincu que ce message fera l'affaire. Il est bien efficace. Il est bien authentique. Il accomplira ce qu'il promet. Et tout au long de cet épître, on va voir que celui qui accueille, qui croit ce message, qui met sa confiance en Christ, ne sera jamais rendu honteux. Ce message, cette bonne nouvelle de Dieu, qui appartient à Dieu, est vraiment la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui l'accueillent, qui y croient, qu'on soit d'arrière-plan juif avec toutes les promesses que Dieu leur a faites, qu'on soit d'origine non-juive, nous qui sommes, qui étions étrangers à toutes ces promesses. L'Évangile nous sauve tous puissamment avec la puissance de Dieu. Alors dans un sens, en Église, entre chrétiens, c'est facile de parler du salut. C'est un mot, dans un sens, on s'y attend quand on vient à l'église, le salut. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? En ce moment, face à ces ouragans, ces cyclones, les gens veulent être sauvés. En Floride, il y en a qui essayent de se sauver, même en ce moment. Sans doute, ils sont là en voiture, en train d'aller vers le nord. Ils veulent se sauver de l'ouragan, mais ultimement, ils veulent se sauver de la mort. Parce que c'est ça ce dont on a le plus peur, n'est-ce pas? Mais dans notre société occidentale, même si nous avons peur de la mort, chose tout à fait normale, humaine, dans un sens, on n'en a pas assez peur. Car mourir égale rencontrer Dieu, rencontrer notre Seigneur, rencontrer notre Créateur, celui qui nous a créés, celui à qui nous devons des comptes. Et dès Genèse 2, premier livre de la Bible, dès Genèse chapitre 3, et la désobéissance d'Adam et Ève, nos premiers parents, les hommes et les femmes, les filles et les garçons, vivent sous la malédiction de Dieu. La sentence de la mort est tombée. Et on a été aliénés de Dieu. Nous sommes devenus ignorants de Dieu. On va voir la semaine prochaine que Dieu nous a livrés à notre désobéissance. Et nous sommes exposés à sa juste colère. L'enfer, la seconde mort, nous attend. Mais on voit ici que l'Évangile est la puissance de Dieu pour nous sauver, pour renverser toutes ces malédictions, pour les défaire, pour les conquérir, pour les bannir. J'ai vu sur Facebook hier qu'un ami a posté quelque chose au sujet du décès de son père. Et il citait un verset qui se trouve à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Et je cite ce verset que mon ami a cité. « J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Celui qui était assis sur le trône dit, « De tout je fais du nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Et elles le sont, elles sont vraies. Et la preuve que les Écritures nous donnent, c'est le matin de Pâques, la résurrection de Jésus, ce salut puissant. Et on voit ce salut puissant aussi tout au long du ministère terrestre de Jésus, dans ses guérisons, qui pointent vers cette résurrection, qui pointent vers cette résurrection future. Oui, grâce à cette puissance divine, on peut passer de la mort à la vie, de l'inimitié ou l'hostilité avec Dieu à l'amitié avec Dieu, de l'aliénation, de l'adoption, comme fils et fille. Oui, on est bien conscient de notre faiblesse. Et l'annonce, la prédication de la bonne nouvelle peut sembler à vue humaine faible, parfois une réponse inadéquate. Mais comme Paul, nous annonçons ce message qui appartient à Dieu. Et c'est ce message lui-même qui a la puissance pour défaire ses malédictions et pour nous donner ses bénédictions, ce salut, ce message, l'Évangile, peut nous sauver. Et c'est pour ça que Paul n'en a pas honte. L'Évangile n'est pas un simple médicament bidon ou placebo. L'Évangile n'est même pas comme un des médicaments efficaces et puissants de la médecine moderne. Ces médicaments-là, ils nous sauvent juste pour un moment, d'une manière temporaire, jusqu'à ce que la mort nous emporte d'une autre manière. Non, la bonne nouvelle est vraiment puissante, parce qu'il peut nous sauver éternellement. Paul n'en a pas honte, parce que l'Évangile fait l'affaire, si je puis dire. Il nous amènera d'une main sûre et certaine dans la maison de notre bon Père Céleste. Alors, comment est-ce que cette puissance nous sauve au juste? Dans la suite de la lettre, l'apôtre Paul va nous l'expliquer en plus de détails. Mais dans ces versets, dans les versets 16 et 17 de notre lecture, de notre passage, il annonce d'ores et déjà le thème de cette lettre et comment l'Évangile nous sauve si puissamment. Et c'est parce que la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile. Et nous sommes à notre troisième point pour ce matin, en vertu de Christ seul. Alors, dans un sens, ce titre est un peu tricheur, parce qu'on ne voit pas encore le mot « Christ » ici, mais on va voir ça en plus de détails au chapitre 3. On va voir que cette justice de Dieu est intrinsèquement liée à Jésus lui-même. Donc, on relit le verset 17. « En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. » L'Évangile, quand il est annoncé avec clarté, avec fidélité, dévoile la justice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, nous le savons, il est juste. Il fait ce qui est juste, ce qui est bon. Et ce terme peut renvoyer à plusieurs réalités bibliques, au caractère juste de Dieu, de sa manière d'être toujours juste. L'Évangile, quand il est annoncé avec clarté, avec fidélité, nous révèle la nature juste de notre Dieu. Le terme renvoie aussi à sa manière de faire justice, de punir le mal, de punir le malfaiteur, et aussi de récompenser le bien et celui qui fait le bien. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Mais c'est vrai que cette manière de voir la justice peut nous faire un peu peur, n'est-ce pas? Quand on a affaire à la justice de l'État, à la justice française, on tremble un tant soit peu. Si les gyrophares s'allument, nos mains au volant tremblent. Et face à la justice de Dieu, si nous sommes un tant soit peu lucides, on commence à trembler aussi. Martin Luther, le moine qui a déclenché la réforme protestante il y a 500 ans, tremblait quand il lisait cette phrase dans l'Épître aux Romains. Et voici son témoignage. Voici ce que Luther a écrit. « Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais. Car l'usage courant et l'emploi qu'on font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais. Et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui, disant « N'est-il pas suffisant qu'il nous condamne à la mort éternelle à cause du péché de nos pères et qu'il nous fasse subir toute la sévérité de sa loi? Faut-il qu'il augmente encore notre tourment par l'Évangile et que même là, il nous fasse annoncer sa justice et sa colère? J'étais hors de moi, tant ma conscience était violemment bouleversée. Et je creusais sans trêve ce passage de saint Paul dans l'ardent désir de savoir ce que l'apôtre avait voulu dire. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu nous donne et par lequel le juste vit s'il a la foi. Le sens de la phrase est donc celui-ci. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, mais cette justice est la justice passive par laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous justifie au moyen de la foi. Aussitôt, je me sentis renaître. Il me semble être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'Écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Voilà, c'est la conversion de Luther. Et dans un sens, même si on fête les 500 ans de la Réforme cette année, parce que c'était en 1517 qu'il a placardé ses thèses, c'était un peu plus tard que ça s'est passé, qu'il a compris l'Évangile. Luther avait compris que ce terme parle d'une justice divine qui nous sauve. Cette justice ne nous condamne pas, mais justement c'est par elle que le croyant est sauvé. Et en effet, dans l'Évangile, ce que nous avons, et on va voir ça en plus de détails au chapitre 3 et au chapitre 4, ce que nous avons, c'est le don, le cadeau de la justice de Dieu. Et Dieu, en effet, nous donne. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne Jésus. Il nous donne Christ. Celui qui a vécu de manière parfaitement obéissante. Celui qui est mort et dont le sacrifice est pleinement acceptable, pleinement suffisant pour Dieu. Et cette justice, Dieu nous donne. Il nous donne Christ. Il s'agit d'un cadeau par pure grâce. Et c'est pour ça que l'Évangile a la puissance de nous sauver. Nous, on est incapables de produire une justice qui serait acceptable aux yeux de Dieu. avant notre conversion comme après notre conversion. On n'en est tout simplement pas capable. Si ça dépendait de notre niveau de justice, de notre capacité à obéir à Dieu, à produire de bons fruits, même par la grâce de Dieu après la conversion, nous n'aurions aucune certitude d'atteindre ce niveau requis. Loin s'en faut. Mais cette justice nous est offerte, elle nous est donnée gratuitement en Christ. Celui qui a vécu de manière parfaitement obéissante, celui dont la mort, le sacrifice est pleinement agréable aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Dieu, lors du baptême de Jésus, a dit « Voici mon Fils, bien-aimé, il a toute mon approbation. » Et c'est ce que Dieu lui a dit en le ressuscitant d'entre les morts. Et il nous offre cette justice, cette vie parfaite, ce sacrifice pleinement suffisant. Comment en profiter? Comment être au bénéfice de cette justice qui vient de Dieu et qui plaît à Dieu? Au moyen de la foi seule. Et nous sommes à notre quatrième point pour ce matin. On a déjà vu ça au verset 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. C'est le verbe qui va avec le mot foi. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et au verset 17, Paul va reprendre ce thème et l'amplifier encore plus. La justice de Dieu, celle qui nous est donnée, est, je cite, « par la foi et pour la foi ». Comme cela est écrit, le juste par la foi vivra. Sa justice qui vient de Dieu, qui nous est offerte en Christ, se reçoit par la foi toute simple, par la foi seule. Ce n'est pas une question de la gagner, de se hisser au niveau. Ce n'est pas une question de pratiquer des rites, des sacrements par exemple, comme le baptême ou la cène. Non, cette justice de Dieu que Dieu nous donne en Christ, avec sa vie parfaite, cette justice se reçoit tout comme un cadeau se reçoit, d'une manière simple, par la foi. L'apôtre Paul cite ce livre, le livre d'Habacuc, où il voit ce principe. Il cite l'Ancien Testament, ce principe était déjà là dans l'Ancien Testament, le salut par la foi. C'était déjà vrai pour le peuple de l'Ancien Testament. Le peuple, en vertu, donc dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Habacuc, en vertu de son péché, faisait face au jugement de Dieu. Dieu leur avait dit qu'il allait envoyer les Babyloniens, envahir le pays. C'était le jugement de Dieu. Mais face à ce juste jugement, Dieu leur explique quel réponse à avoir, quelle attitude à avoir. Et donc il y a ce verset qui évoque la foi de celui qui sera sauvé, qui vivra. Jésus illustre cette foi qui croit Dieu sur parole dans ce qu'il a dit à Jairus, ce leader de la synagogue. Je ne sais pas si vous rappelez, si vous vous souvenez de cet épisode qu'on voit dans les évangiles. La fille de Jairus était gravement malade et sur le point de mourir. Et Jairus était venu chercher Jésus pour que Jésus vienne et pour que Jésus guérisse sa fille. Et en y allant, il y avait une femme atteinte d'hémorragie, de saignement, et ça depuis 12 ans. Et par la foi toute simple, elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle en était guérie. Mais tout ça a pris du temps. Et pendant que Jésus discutait avec cette femme, des gens sont arrivés de chez Jairus et ils lui ont dit, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Des paroles un peu dures et des paroles certainement dévastatrices pour Jairus. Et voici ce que le verset 36 du chapitre 5 de l'évangile de Marc nous dit. « Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Seulement croire, la foi seule. Parce que c'est par la foi, pour la foi. C'est la foi toute simple. Ce n'est pas la foi plus les sacrements d'église, comme le baptême, ou par le moyen du baptême. Ce n'est pas la foi, plus les œuvres faites par la grâce de Dieu, dans la grâce de Dieu. Non, c'est la foi seule. Crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement. Et dans la foulée, Jésus est allé chez Jairus. Et malgré les moqueries de la foule, il a dit à la jeune femme, « Jeune femme, lève-toi, je te le dis. » Et aussitôt, la jeune femme se leva et se mit à marcher. Voilà tout un symbole, une image de la puissance divine qui renverse ses malédictions pour donner la vie, pour donner la résurrection. Ce n'est pas toujours simple de croire Dieu sur parole, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours simple d'accepter les promesses de Dieu, de croire que c'est simplement par le moyen de la foi que Dieu nous donne cette justice qu'il a opérée en Christ, cette justice qui est sa vie parfaite, son sacrifice pleinement suffisant. Ce n'est pas simple de croire Dieu sur parole. On connaît peut-être l'ampleur de nos fautes. On se dit, ah, comment est-ce que je peux recevoir ça comme un simple cadeau? Je sais pour moi-même que dans un instant, je peux très facilement basculer. Peut-être quand je pense à quelque chose que je viens de faire, quelque chose de mauvais, de pécheur, ou quand le souvenir de quelque chose que j'ai fait il y a des années refait surface. J'ai tendance à rebasculer en mode performance. J'essaie de faire quelque chose pour réparer la faute, pour me remettre dans une situation où Dieu peut m'accepter. Mais non, j'ai besoin de revenir à l'Évangile. Je ne serai jamais à la hauteur. Il faut que je revienne à cet Évangile, à cette foi seule. L'Évangile nous sauve par cette justice qui vient de Dieu, qui nous est donnée comme un cadeau, qu'on reçoit par la foi seule. Ma justice est tellement médiocre, tellement insuffisante. Je dois simplement m'accrocher à cette justice qui nous est donnée en Christ, en n'y ajoutant rien, ni sacrement, ni effort, ni tentative de réparer la faute, ni performance. Je n'ai pas honte de cet évangile-là. Il me sauve vraiment. Si ça dépendait de moi, de ma performance, même de ma coopération avec la grâce, ça ne marcherait pas. Je ne serai jamais à la hauteur. Je dois recevoir cette justice comme un cadeau, comme un enfant reçoit un cadeau de ses parents. Et ça, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle libératrice. La bonne nouvelle qui concerne le Fils, le Seigneur, notre Seigneur. Ce Seigneur nous est donné et on se saisit de lui par la foi. On reçoit Christ, on s'accroche à Christ, à ce cadeau qui est la justice de Dieu, cette vie pleinement obéissante, ce sacrifice pleinement suffisant. Il est un cadeau qui nous est donné de la part de Dieu. Et on le reçoit comme un enfant reçoit un cadeau. Dans les semaines et les mois qui viennent, on va creuser les profondeurs de cet évangile centré sur Jésus. Cet évangile qui est la puissance de Dieu pour sauver qui que ce soit, juif et non-juif, riche et pauvre, le pieux comme l'impie, le saint comme le vilain. Et il faut que nos cœurs soient saisis par cette nouvelle libératrice. Si on veut vivre pour le Seigneur, en nous réévangélisant, l'apôtre Paul veut allumer un feu en quelque sorte, un feu d'amour pour ce Seigneur qui nous est donné, un feu d'amour pour son peuple, pour qu'on puisse vivre ensemble, juifs et non-juifs, riches et pauvres, et quelles que soient nos origines ethniques. Et ça aussi pour qu'on ait un feu d'amour pour ceux qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle, qui ont besoin d'entendre cette nouvelle. Paul voulait que les Romains deviennent ses partenaires dans l'annonce de l'Évangile. Et en nous réévangélisant, il veut allumer ce feu pour qu'on devienne nous aussi des partenaires, des associés dans ce travail. On va demander à Dieu dans la prière de nous aider à saisir toute la grandeur de cet évangile pour que nous vivions pour lui de manière dévouée, pour que nous annoncions avec audace, avec fierté, cette bonne nouvelle. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te louer ce matin pour la bonne nouvelle, ce message puissant qui nous a sauvés, qui nous a sauvés en vertu de Jésus. Père, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incapables d'être justes, de produire des vies de justice qui sont suffisantes pour être acceptées, acceptables à tes yeux. Père, nous, on te dire pardon parce que très souvent, dans notre fierté, dans notre ignorance, on revient à nos efforts, à notre performance, parce qu'on est incrédule, parce qu'on ne voit pas l'ampleur de notre faute. Et Père, dans ta grâce, nous voulons te demander de nous aider à toujours dépendre de Jésus seul, de la justice que tu nous as donnée en lui, sa vie pleinement obéissante, son sacrifice pleinement suffisant. Merci de ce que Jésus fait l'affaire. Et par sa justice, cette justice que tu nous donnes, que tu nous offres comme un simple cadeau, nous pouvons avoir l'assurance que nous serons avec toi pour l'éternité, sauvés de toutes ces malédictions, sauvés de la mort et la mort éternelle. Père, donne-nous de croire tes promesses. Nous avons tendance à douter. Nous sommes faibles. Et Père, nous voulons te demander dans ta grâce, fortifie notre foi par cet évangile pour que nous soyons de plus en plus attachés à ton Fils. Que nous soyons de plus en plus convaincus par l'évangile. Et de plus en plus, que nous ayons de plus en plus l'envie de partager cette bonne nouvelle avec ceux qui nous entourent, qui sont perdus. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, notre Sauveur puissant.